Jean-Baptiste Maudru, 1792. Réflexion sur l'éducation. Avant-propos. Un homme de lettres, hongrois de nation, M. Iankovitch, envoyé de Vienne en Russie par l'empereur Joseph II à l'impératrice Catherine II pour créer dans les états de cette princesse et pour y diriger une éducation nationale, a donné lieu à la réimpression de cet ouvrage. Je lui en avais communiqué un exemplaire, le seul peut-être qui existât, pour que, l'ayant lu, il me le rendît. Mais quand, au bout d'un certain laps de temps, je le lui redemandais, d'abord il s'excusa, sur ce qu'il ne l'avait pas encore lu entièrement, puis il m'avoua enfin que, comme cet ouvrage ne se trouvait nulle part, il s'était déterminé, pour l'avoir dans sa bibliothèque, à le faire copier, me priant d'excuser cette infidélité. Je me rappelais dans ce moment le « Sic vos non vobis fertis aratraboves » de Virgile, et l'envie de faire copier ce livre a produit celle, en le faisant réimprimer, d'épargner l'embarras des copies, presque toujours moins correctes et toujours plus coûteuses. On donne l'ouvrage tel qu'il a été imprimé en 1778 à l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg aux frais de cette académie. Puisse la lecture de ses réflexions en faire naître de plus utiles. Puisse l'auteur, arrivé au port après mille orages, réaliser enfin la douce et longue espérance de donner quelque chose d'une utilité plus sensible que des réflexions vagues. Avertissement. Ces réflexions que l'on présente sous la forme d'un plan d'éducation fort abrégé, il est vrai et peu méthodique, mais suffisant se semble dans la circonstance actuelle et capable d'inspirer aux parents une juste confiance, avaient été anciennement écrites pour une éducation particulière. Ce même plan a été demandé par une personne qui, depuis longtemps, conduit la jeunesse avec succès, pour l'exécuter chez elle sur des pensionnaires de l'un et de l'autre sexe. Et l'on a cru, le faisant imprimer, devoir le laisser subsister en son entier, avec la précaution seulement de mettre en italique ce qui a semblé convenir plus proprement aux maisons particulières et celle d'ajouter quelques notes, la plupart, relatives à l'éducation publique. D'autres caractères particuliers y distinguent ce que l'on peut nommer, si l'on veut, éducation raisonnée, afin qu'il soit plus facile au lecteur de sauter ce qu'il voudra. Peut-être que certains détails sembleront d'abord puérils, mais on cessera de les regarder comme tels, quand on considérera que rien de ce qui peut contribuer à former l'homme moral n'est puéril, et que d'ailleurs, ce n'est pas pour un peuple de savants que l'on écrit ici. On avait aussi déjà fait imprimer le plan d'un cours public de langue française, et c'est ce plan que l'on a mis à la fin, après y avoir fait quelques retranchements. Une dernière chose à ajouter, c'est que l'auteur, autant que les circonstances le lui permettront, est disposé à seconder les efforts de la personne pour qui a été imprimé ce plan, dont il doit lui-même diriger l'exécution. Introduction. 1. Avant de commencer une éducation, le premier pas à faire est de dresser un plan. Pour former les hommes, il faut un plan comme il en faut un pour les gouverner. Ce plan, c'est à celui qui est chargé de l'éducation à le composer et aux parents à le modifier au gré de leur vue ou des circonstances que le premier n'a pas pu prévoir, afin qu'ainsi rectifié et adopté ensuite, il règle pour toujours la conduite de l'instituteur, comme la loi est ce qui règle le magistrat. 2. Un plan d'éducation ne doit rien contenir qui ne soit d'une exécution aisée. Rien qui soit chimérique. Celui que l'on va lire est dans ce goût. 3. Tout enfant qu'il s'agit d'élever doit être considéré sous deux aspects. Petit 1, il appartient à ceux de qui il a reçu le jour. Petit 2, il appartient à l'État, plus à l'État encore qu'aux parents, et ce double rapport est comme la boussole de l'instituteur. 4. De ce principe si lumineux et si fécond découlent deux grandes conséquences, qui sont comme les deux buts essentiels de toute éducation. Le premier but, et le principal, est de préparer à l'État un nouveau citoyen et l'autre de préparer aux parents un ami sûr et fidèle. 5. Un nouveau citoyen, en faisant à propos connaître à l'enfant ses diverses relations pour les lui faire chérir et respecter. 6. Un ami sûr, en l'accoutumant de bonne heure à être soumis aux volontés de ses parents, à être respectueux à leur égard et tendre. 7. Quoi de plus accablant pour un père que l'ingratitude d'un enfant? Quoi de plus consolant, au contraire, que le spectacle d'un fils attentif à reconnaître le soin qu'a coûté son éducation? C'est alors qu'il est doux d'être père. C'est dans le cœur reconnaissant de son fils qu'un père trouve la récompense due à ses longs travaux. Mais ces fruits si doux de la reconnaissance peuvent-ils germer ailleurs que dans un bon cœur? 8. Ces relations sacrées de fils, d'époux, de père, etc., ces relations qui constituent le citoyen, ou ce qui est la même chose, l'honnête homme, ces relations autrement appelées principes, sont nulles aux yeux d'un mauvais cœur. Un voile impénétrable les couvre et les lui dérobe pour jamais. Un mauvais cœur est à la société ce qu'est à l'arbre une branche morte ou parasite.